Bonsoir. Alors voilà la 20e édition des usagers du CIPM. Nous sommes très contents de continuer à le faire au CIPM. Nous en remercions toutes les personnes qui y travaillent, et en particulier son directeur, Emmanuel Ponsard. C'est grâce à lui qu'il y a eu cette association et que nous pouvons faire ces soirées si agréablement. Alors, cette année, vous avez pu lire la biographie un petit peu et les rapports que j'ai avec ces trois auteurs qui sont présentés, qui me semblait que pour cette année, il fallait montrer comme ça trois auteurs tout à fait différents les uns des autres, mais qui s'amènent quand même comme une sorte de plaque tectonique, chacun montrant un aspect divers de notre monde si particulier et si changeant. Donc vous entendrez tout d'abord Laure Limongi, ensuite Jean-Noël Orengo, et après Pierre Ménard. J'avais une chose à vous dire, ah oui, dernière chose que je voulais vous dire, en partant, n'oubliez pas de rallumer vos portables. Au revoir.
Bonsoir, je vais vous lire un extrait d'un livre qui s'appelle Le travail de rivière, qui est sorti l'année dernière en février et qui a été publié dans la collection que dirige Fanette Meillou aux éditions Dissonance. Chaumont ressemble à une tête d'épingle dans la grande tapisserie française, elle-même, minuscule pièce du vaste brocart du monde. L'univers est à portée de main quand on l'imagine faufiler. Chaumont est une tête d'épingle verte, piquée sur le cœur de la France, qui n'en rougit pas. Et c'est là que je suis née, en 1923, avec quelques dizaines de milliers d'autres âmes noyées dans cet ensemble. Tête d'épingle sur tête d'épingle, on n'en finit pas. Océan de relativité. Ces échelles vertigineuses m'ont toujours tourné la tête, mais je ne dois pas commencer à digresser, pas déjà. M'est avis que je vous perdrai suffisamment tôt dans les méandres et leurs interstices. Combien finiront à la cave sans lumière de mon récit, sans en avoir visité le salon de musique? Je reprends, donc, et je suis ma portée. Pas à pas, d'enjambées de sabots et d'élèves appliqués. Je suis née à Chaumont, entre deux guerres. C'est là que mes yeux ont suivi un ruban d'histoire que j'aimerais vous raconter, d'une plume qui n'est bien sûr pas la mienne. Imaginez-vous de quel lieu je pourrais vous parler, mais la voix est assez ressemblante. Portrait en pied. Je suis accrochée à cette vie comme à un poumon gris. Pourtant, je souris. Mes pieds avancent, l'un après l'autre, bien docilement, qu'il vente ou qu'il neige. Personne ne pourrait imaginer la voix qui hurle en moi et qui recouvre tout. La peur de la mort, le fracas des machines. Personne ne pourrait l'imaginer derrière le chignon peigné et les yeux qui reflètent les arbres. Derrière les liens, soigneusement dessinés, pleins et déliés. Je m'éloigne bien docilement de ce que j'ai été, de ce que j'ai cru être. Et ce pas crée une écorce fendue d'un grand rire. Un point arrêté sur une image en ralenti. Tout est flou autour, car c'est la grande histoire qui passe, son train sinuant. Seul mon regard pourra vous y assurer un chemin net, avec de vrais visages, presque de chair. J'ai dit presque. Des gestes, des dimensions, des angles, où se cogner. Je suis accrochée à cette vie comme aussi bien pas. C'est arbitraire, je le sais. Qu'est-ce qui n'y est pas? C'est versatile une femme, tous les proverbes le disent, et mon père aussi, ainsi que ses amis. C'est versatile un homme qui court après sa mort en croyant la fuir. Ça, personne ne le dit. La répétition des gestes aide, on le croit. Le souvenir, les traditions. La monotonie est douce comme un matin pluvieux, l'intérieur de mes bras, fade comme les repas quotidiens, l'odeur du savon noir. Et si je pleurais, qu'est-ce que ça changerait? Et si je criais aussi fort que le loup du bois, le cou tendu à se briser, croc à l'air, bavant ma vie? Cela n'effraierait sans doute que les enfants et les curés. Ma grand-mère me chante le nid Tudor et les moulinets qu'elle fait avec ses bras me font peur, malgré son sourire. Bétasse qui pleure pour un rien, bétasse qui chigne, ta sensibilité, ma fille, ta sensibilité te perdra. Mais je ne peux m'empêcher de le voir sombrer, ce meunier, glisser sur une pente savonnée, de sentir son cœur exploser en même temps que les balles du moulin se détachent. Tout cela parce qu'il dormait. Du clos, sur des images plus vraies. Ne pas dormir. Ma grand-mère me chante toutes les comptines qui font peur et me parle du loup. Elle ne porte vraiment de Clémence que le nom. Elle était brodeuse, comme ma mère est brodeuse, comme je serai brodeuse. Enfin, brodeuse, fermière, mère. Elle me laisse jouer avec ses outils, dont elle ne se sert plus, et j'y joue avec respect. De dinette en cousette, on traverse sa vie en miniature de 6 à 12 ans, sans s'en rendre compte. Même si les repas imaginaires sont souvent plus riches que ceux qu'on ne goûtera jamais, même si on pense coudre des robes de princesse sur de vieux lambeaux de torchon, en aiguillée de paresseuse, dit-elle, répète-t-elle, qui me teste à penser que je finirai comme le meunier, trop vite, trop fort, tout au fond du trou et de son obscurité. On pourrait aisément se complaire à l'abîme, aux temps acides, aux nuits sans âge. Se perdre dans l'agitation qui heurte comme un animal fou de douleur, s'en prend aux arbres, des armes de ses griffes sanglantes. Était-ce mieux avant? Est-ce que ça sera mieux après? Peut-être cherche-t-on des axes là où aucune logique ne préside. Des nervures sans feuilles, des cartes sans territoire. On en ressort de toute façon blessé, à l'orée du bois, pupille brillante. Les bulbes finiront au printemps par fleurir. C'est un cycle immuable. Pourtant, ils n'ont aucun but. Quand elle arriva, la porte était ouverte, ce qui l'étonna. Dans la chambre, tout lui parut vraiment bizarre, et elle se dit que, décidément, toute cette journée était étrange. Écartant les rideaux du lit, elle vit sa grand-mère, couchée, avec son bonnet qui lui cachait le visage. Elle était différente. Ce n'était pas son attitude ordinaire, mais elle avait toujours réponse à tout. Grandes oreilles, pour mieux entendre. Gros yeux, pour mieux voir. Grandes mains, pour mieux prendre. Grandes dents, pour mieux manger. Et le loup dévora la petite fille. Je suis accrochée à cette vie. Comme un poumon gris, en petit bateau flottant et rivière, je suis le fil de l'eau qui va on ne sait où, qui va se jeter dans plus grand que lui, et s'y confondre, vers une eau toujours plus froide. Le travail de rivière. Tout d'abord, la peau est morte, bête qui fut, bêlant, mugissant, courant dans les prés, aujourd'hui simplement sanglante, sentant la chair sauvage. Elle s'étale en tas indistincts et macule la peau qui, sans ironie, ne porte pas de gants. La peau protégerait de la peau, mais l'étoufferait et gênerait les gestes. Alors, dans la chapelle hangar, les hommes en tablier trimballent les peaux dégoûtantes de tous grains et carnations. Et tout d'abord, il trie. Le premier choix, le second choix. Affaire d'œil et de toucher. Les belles peaux sont fines et font peu de bruit lorsqu'on les agite, comme les belles qui les porteront en société. Le reste est tapage sourd, gants d'homme pressé ou d'ouvrier, qui ne craindra pas de se déchirer. On les sale, les peaux, pour éviter que le travail de mort ne se poursuive, On les sale, on les retourne fréquemment, on les bat les unes contre les autres tous les 30 ou 50 jours, selon la température extérieure, l'été n'étant pas l'ami de la peau avant son tannage. Et après, commence alors le travail de rivière, celui des mégissiers. À nouveau, les peaux sont discriminées, fortes, moyennes ou fines, car de ce classement dépendra le bain choisi à l'eau de la Suze qui se transforme en rivière lustrale. C'est le reverdissage, un air de printemps, le début de résurrection. On hydrate, on enlève les poils, on attaque de chaud et de repin avant de rincer. La mise en confit au plus profond d'une soupe atroce transformera la charogne en pelure de luxe, bientôt brodée. Dans de grandes cuves, elles sont ainsi touillées au bâton, peu à peu dégraissées, lovées les unes contre les autres en ce concert puant. Rassérénées à nouveau par un mélange turbulent de farine, d'alun, de sel, de jaune d'œuf qui les nourrit et les assouplit. L'essoreuse dégoutte et une marée de Suze revient, d'un courant de l'été, faire son travail d'oubli. On n'imagine pas ce qu'ont vécu les poux qui crissent sur la fermeture d'un sac qui glisse doucement retiré. Elles sèchent à l'air libre jusqu'au palissonnage qui affine et soumet sur support d'acier. La grande lame n'y omet rien. Longuement foulées, elles sont rhabillées d'eau et de jaune d'œuf, nouvelle faillite de mémoire, afin de pouvoir accepter une couleur nouvelle, perle, tourterelle, nacara, andrinople, flave ou encore beurre frais. C'est un travail de fée apprécié des reines. Ma grand-mère était très fière de raconter que sa mère avait brodé les gants que portait la reine Victoria lors de la première exposition universelle au Crystal Palace. Ils étaient blancs de Chine, hauts, à boutons de nacre, minuscules, quoique aux doigts assez forts. De ses mains minuscules aux doigts assez forts dans ses gants blancs de Chine, la reine Victoria, qui a 32 ans, salue la foule enthousiaste du Crystal Palace. Elle visite les stands qui exposent des onguents faisant office de sangsues, des prototypes de corsets tout coton, des entraves pour esclaves, des soies indiennes, des jarres, des candélabres, des machines à vapeur, un nouveau modèle de cuiseur de pommes de terre, une moissonneuse, un lit à alarme, de fausses chinoiseries, un fusil pour chasser l'esclave récalcitrant, des antiquités, du charbon. Victoria n'est pas encore l'impératrice des Indes au visage sévère, mais de ses gants blancs de Chine, hauts, à boutons de nacre, elle célèbre en grande pompe la religion industrielle de l'Angleterre, la trilogie de l'utile, du beau et du bien. Pendant ce temps, les ouvrières de Chaumont traquent dans les journaux des gravures de la reine, ces gants royaux de quelques millimètres à peine, dessinés sur papier gris, qui représentent plusieurs jours de leur vie laborieuse et sont le centre secret de cette exposition universelle. Des gants immaculés, frôlant des modèles d'esclaves et la lumière qui traverse librement les surfaces de verre et des sourires accrochés au visage. Quand elle arriva, la porte était ouverte, ce qui la surprit. Dans la chambre, tout lui parut vraiment insolite. Et elle se dit que, décidément, cette journée était singulière. Écartant les rideaux du lit, elle la vit couchée avec son bonnet de dentelle qui lui cachait le visage. Elle était différente, oui, autre. Mais elle avait toujours réponse à tout. Grandes oreilles, pour mieux entendre. Gros yeux, pour mieux voir. Grandes mains, pour mieux prendre, grandes dents pour mieux manger. Et le loup dévora la petite fille.
Merci.
Bonsoir. Alors moi, je vais vous lire trois extraits de la Bible, mais une Bible un peu modifiée, la Bible de l'avant-garde. L'Ancien Testament, de la Bible, de l'avant-garde. Premier récit de l'exposition. Au commencement, Marcel Duchamp. Au commencement, Marcel Duchamp créa la rétine et l'intellect. Or, la rétine était un magma croûteux et légèrement dégueulasse, et il y avait des ténèbres au-dessus de la toile, et l'esprit malarméen planait au-dessus des eaux. Duchamp dit « du signe », et le signe fut. Duchamp vit que le signe était bon, et Duchamp sépara le signe des ténèbres. Duchamp appela le signe jour, et les ténèbres, il les appela nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier signe et premier jour d'exposition. Duchamp dit qu'il y ait un socle entre les eaux, et que ce socle sépare les eaux pures des eaux croupies. Duchamp fit le socle et il sépara les eaux qui sont au-dessous du socle, la pisse, avec les eaux qui sont au-dessus du socle, les larmes. Duchamp appela le socle ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour d'exposition. Duchamp dit que les eaux de dessous le socle s'amassent en un seul lieu et qu'apparaisse ce qui est sec et pauvre. Il en fut ainsi. Ce qui était sec, Duchamp l'appela urinoir ou pissotière, qui avec le temps est devenu le mot terre, et l'amas des eaux, il l'appela mer. Duchamp dit que la terre pissotière produise des déchets, des rebuts, des ordures, des décharges, des contaminations, des trucs bizarres, des bizarreries, des choses infectes et sales. Il en fut ainsi. La pissotière fit sortir des immondices, des produits avariés, contaminés, modifiés. Duchamp vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour d'exposition. Duchamp dit qu'il y ait des spots au firmament du socle pour séparer les expositions et qu'ils servent de spots dans le firmament du socle pour éclairer l'urinoir. Il en fut ainsi. Duchamp fit les spots, un ici, un là et des plus petits partout. Duchamp les plaça au firmament du socle pour éclairer l'urinoir. Duchamp vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour d'exposition. Duchamp dit que les eaux croupissantes pullulent d'un pullulement d'œuvres d'art et que le public s'agite autour du socle, joue aux gens agités avec des tiques pour faire des cicatrices sur le visage. Duchamp créa les grands raouts, les vernissages et tous les êtres qui se meuvent et dont les eaux croupissantes pullulent selon leur espèce, critiques, étudiants, amateurs, snobinards, connaisseurs. Duchamp les bénit en disant « Fructifiez et multipliez-vous. Remplissez les salles et que les publics se multiplient autour du socle. Il y eut un soir, il y eut un matin, cinquième jour d'exposition. » Duchamp dit « Que l'urinoir fasse sortir des êtres vivants selon leur espèce. » Bestiaux, reptiles, bêtes sauvages, cobras, situationnistes, dadaïstes, lettristes, touristes sexuels. Il en fut ainsi. Duchamp fit les bêtes sauvages selon leur espèce et tous les touristes sexuels selon leur goût. Duchamp vit que cela était bon. Duchamp dit « Faisons l'artiste à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les masses salariées, les ratés du système, les ringardisés, les sans-pub, les trop gros et pas ou pas assez, qui rampent autour du socle et qui sont obligés d'aller au Cambodge, en Thaïlande, en Colombie pour respirer un peu. » Il en fut ainsi. Duchamp créa l'artiste à son image, à l'image de Duchamp, il le créa. Mâle et femelle, il créa les artistes. Duchamp les bénit et Duchamp leur dit « Fructifiez et multipliez-vous. » Remplissez les expositions, les salles de concert, de lecture, les salles d'opération, de torture et soumettez-les. Dominez sur les masses salariées, sur les clodos, sur les patrons véreux, sur les sportifs et sur tout être vivant qui rampe sous la terre. » Duchamp dit « Voici que je vous donne l'herbe et toutes les feuilles, cannabis, coca, pavot, portant semences à la surface de toute la terre, et toute plante qui a en elle pollen de plantes portant semences. Cela vous servira de nourriture et d'hallucination. Et à toute bête sauvage, à tout situationniste, cubiste, à tout clodo, client ou putain, à tout ce qui rentre sous le socle et qui a en lui âme vivante, je donne en nourriture toute plante, pavot, coca, cannabis. Duchamp vit tout ce qu'il avait fait, et voici que cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, sixième jour. » Ainsi fut achevée la rétine, l'intellect, le socle, l'urinoir et toute leur armée. Duchamp acheva le septième jour le travail qu'il avait fait, et il cheva après tout le travail qu'il avait fait en exposant. Telle fut la genèse de la rétine, de l'intellect, du socle et de toute leur armée quand ils furent exposés. On va avancer un peu et on va passer à l'histoire des patriarches. Histoire d'Ezra Pound. Marcel Duchamp dit à Ezra Pound: « Va-t'en de ton pays, les États-Unis pourris, de ta parenté, de la maison de ton papa, vers le pays que je te montrerai. Je te ferai devenir un grand poète. Je te bénirai, je rendrai grand ton nom, tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et qui t'outragera, je les maudirai en divin célibataire. Par toi se béniront toutes les familles poétiques de la terre. » Ezra Pound s'en alla, selon ce que lui avait dit Duchamp, et T.S. Eliot s'en alla avec lui. Ezra Pound, le bougre, était alors âgé de 75 ans quand il sortit de New York. Pound prit sa femme, Dorothy ou Hilda, on ne sait plus très bien, T.S. Eliot, fils de son frère, tous les biens qu'ils avaient acquis et les gens qu'ils s'étaient procurés à New York. Ils sortirent pour aller au pays de France, et ils arrivèrent au pays de France. Première pérégrination d'Ezra Pound en France. Pound traversa le pays jusqu'au lieu de Carcassonne, et plus bas jusqu'au lieu du château de Montségur. Les Français étaient alors dans le pays, mais plus les troubadours. Duchamp apparut à Pound et dit « À ta descendance, je donnerai ce pays. » Là, il bâtit un hôtel à Duchamp, le Jetsy Hotel, Duchamp qui lui était apparu. De là, il alla vers l'est, traversa Avignon, Nice, Villefranche-sur-Mer, puis passa dans la montagne, et il tendit sa tente, ayant Villefranche à l'ouest et Monaco à l'est. Là, il bâtit un hôtel à Duchamp, tel du Cap, et il invoqua le nom de Duchamp. Puis, d'étape en étape, Pound gagna les Alpes. Il y eut une famine dans le pays et une grippe un peu métèque, une grippe espagnole, et Pound descendit en Italie pour y résider, car la famine et la grippe étaient un peu craignos en France. Or, sur le point d'entrer en Italie, il dit à Hilda ou Dorothy, sa femme, « Vois, je sais que tu es une femme belle à voir. Lors donc que les Italiens te verront, ils diront « C'est sa femme » et ils me tueront et te laisseront en vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin qu'il m'arrive du bien à cause de toi et que je vis grâce à toi. » Lors donc que Pound fut entré en Italie, les Italiens virent que la femme était très belle. Des officiers en chemise noire, bottes cirées et béret à pompons la virent et la vantèrent au duché. Et la femme fut emmenée à la maison du duché. Celui-ci traita bien Pound à cause d'elle et lui donna un système de radiodiffusion sophistiqué. Il eut en plus du petit et du gros bétail, des ânes, des esclaves, hommes et femmes, des ânesses et des chameaux. Mais Duchamp frappa de grandes plaies le duché et sa maison à cause de Hilda ou Dorothy, femme de Pound. Le duché appela Ezra Pound et dit « Qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait là? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit « c'est ma sœur » Aussi l'ai-je prise pour femme. Maintenant, vois, prends ta femme, prends-la, dégage. » Le duché donna à ses sujets des ordres, des types en mode ciré et béret à pompons, afin que Pound fût reconduit à la frontière. Ils le déportèrent, lui, sa femme et tout ce qu'il avait. On avance à nouveau et on passe au Nouveau Testament. L'Évangile selon Marc d'Achy. Prologue. La gloire du Verbe malarméen, en Duchamp, dans le monde et dans l'histoire. Au commencement était le Verbe malarméen, et malarméen était auprès de Duchamp, et Mallarmé était Duchamp. Et puis le temps a passé et ça s'est gâté, mais quand même. Il était au commencement auprès de Duchamp, collé. Par lui, le Verbe malarméen, tout apparut, et sans lui, rien n'apparut de ce qui est paru. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et les spots brillaient dans les galeries ténébreuses, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Parut un homme, envoyé de Duchamp. Son nom était Andy Warhol. Il vint en témoignage, pour témoigner au sujet des spots, afin que tous crussent par lui. Car il n'était pas le spot en lui-même, mais il devait témoigner au sujet du spot et au nom du spot. Le spot suprême, le véritable, qui illumine tout homme quelques minutes dans sa vie, venait dans le monde. Il était dans le monde. Et par lui, le monde a paru. Et le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné pouvoir de devenir enfant de Duchamp, à ceux qui croient en son concept, qui ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir de l'homme, mais d'un vouloir de Duchamp. Et Mallarmé, l'esprit, le Verbe mallarméen, est devenu chair, et il a séjourné parmi nous comme une fleur dans un bouquet donné à maman le jour de sa fête. Et nous avons contemplé sa gloire, gloire comme celle qui tient de son père, un fils unique, plein de grâce et de vérité. Duchamp Andy Warhol, pardon, témoigne à son sujet. Et il dit, c'était celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi est passé devant moi parce qu'avant moi il était. Car de sa plénitude, nous avons tous reçu, et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée à John Cage, sauvé des eaux, mais la grâce et la vérité sont venues par le fils de Duchamp, le Christ, Guy Debord. Duchamp, personne ne l'a jamais vu, un Dieu, fils unique, qui est dans le sein du Père. Celui-là s'est fait connaître. Guy Debord, fils de Marie et d'Isodorizou. La gloire de Debord manifestée au monde. Et tel est le témoignage d'Andy Warhol, lorsque de Paris, des surréalistes lui envoyèrent des prêtres et des lévites pour l'interroger. « Qui es-tu ?» Et Andy le reconnut, « Moi, je ne suis pas Guy Debord. » Et ils l'interrogèrent, « Quoi donc ? Es-tu Antonin Artaud ?» dit le Momo. Et il dit, « Je ne le suis pas. » « Es-tu Jacques Vacher, le prophète ?» Et il répondit, « Non. » Et lui dirent donc, « Qui es-tu ? Que nous rendions réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même ? » Il déclara, « Je suis la voix de celui qui clame dans les médias, redresser le chemin de Duchamp selon ce que dit Vacher, le prophète. » Et les envoyés étaient des surréalistes, et ils l'interrogèrent, et lui dirent, « Pourquoi donc fais-tu des sérigraphies si tu n'es ni Guy Debord le Christ, ni Artaud le Momo, ni Vacher le prophète ?» Andy Warhol leur répondit en disant, « Moi, je ne fais que sérigraphier. Au milieu de vous se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas, celui qui vient après moi, et je ne suis pas digne, moi, de filmer, de peindre ou d'écrire, donc je sérigraphie. » Cela se passait rue Jicoeur, à Paris, au-delà de la Seine, où Andy était à sérigraphier. Le lendemain, il aperçut Guy Debord, qui venait vers lui, et il dit, « Voici le célibataire de Duchamp qui enlève le péché du monde. C'est celui pour lequel moi j'ai dit, « Après moi vient un homme qui est passé devant moi parce qu'avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas. Et pour qu'il fût manifesté à Paris, voilà pourquoi moi je suis venu, moi, sérigraphiant au Beat Hotel rue Jicoeur. » Et Andy témoignait une dernière fois en disant, « J'ai vu l'esprit malarméen descendre tel un Stuka avec ses sirènes homériques, c'est-à-dire un corbeau, dans la langue d'Edgar Allan Poe, venant du ciel des spots, et il est demeuré sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé le sérigraphier au Beat Hotel, celui-là m'a dit, celui sur lequel tu verras l'esprit descendre et demeurer sur lui, c'est lui qui sérigraphie dans l'esprit saint malarméen. Et moi, Andy, j'ai vu, et j'ai témoigné que c'est lui, l'esprit de Duchamp. » Merci.
Que je suis en train d'écrire, qui s'appelle « Les lignes de désir », qui est un texte un peu particulier à circulation et lecture aléatoire. Donc là, j'ai quelques fragments de ce texte en cours d'écriture. Ce que je vais faire, c'est que je vais les mélanger, je vais en lire qu'une partie, parce que sinon ça serait un petit peu trop long. Tous les jours, le même trajet, même heure, même place, et les voisins de compartiment identiques à la veille. On enlève son manteau, on s'assoit dans le sens de la marche, et le train démarre. Le paysage défile, toujours le même, et jamais tout à fait pareil. Le regard se laisse aller à rêver et glisser à la vitesse du train. Des endroits que l'on connaît toujours, sous le même angle. Il suffit qu'un jour, le train rencontre un problème technique, une avarie, un accident, et tout s'arrête, se transforme radicalement. La perspective ainsi modifiée nous déstabilise. On ne sait plus où l'on est. Pourtant, le train s'est juste arrêté dans une gare du parcours. Il a fallu descendre, sortir du cocon chaleureux du compartiment pour rejoindre la gare. Plus aucun train ne pouvant circuler suite à un accident matériel. On se retrouve devant la gare, sur le trottoir, et l'on regarde la foule des voyageurs perdus, sortis d'eux-mêmes et de leur tranquille habitude, mis en danger. Littéralement, ailleurs. C'est un lieu que je connais bien. Tous les matins, le même rituel pour aller prendre mon train, remonter la rue à l'ombre écrasante du bâtiment de la SNCF. Le mur nous soutient, nous guide, avec la ligne de soutènement qu'il trace à nos côtés. Je parviens finalement tout en haut de la rue. Là, tout s'ouvre, se dégage à ma vue. attendre avant de traverser. Les voitures filent à vive allure, ligne droite, route large. Traverser le pont suspendu au-dessus des voies de la gare de l'Est, avec ses croisées de béton armé. Respiration de perspective avant de s'engouffrer dans le souterrain. Guère le temps de flâner, un train à pendre, pas de temps à perdre. Rendez-vous à ne pas manquer. Il faut accélérer la cadence, agrandir sa foulée, juste le temps de jeter à la dérobée un coup d'œil vers les voies en dessous. Un train entre en gare. Le bruit qu'il fait, fracas des essieux sur les rails, crissement des freins à peine masqués par le flot des voitures dans les deux sens sur le pont Lafayette. Les mots tournoient dans sa tête au rythme de ses pas. Sous l'accumulation hasardeuse des vestiges de soi, la même chose s'applique dès lors que l'on tente de définir ce qui pourrait être un lieu. Quelque chose d'une dérision nécessaire à qui s'observe. Dans la marche, une phrase, parfum qui répond aux couleurs, qui répond aux sons, qui répond aux parfums, dans un livre qui a les dimensions du voyage à venir. L'horizon ou les nuages, les rencontres, les mots, les images, les souvenirs ou tout ce qui vient à l'idée. Il y a la marche et le but de la marche. Nos déplacements, nos schémas de déplacement sont réguliers, routiniers et tous également prévisibles. Qu'avons-nous fait de nous? Le corps travaille à la matière, à la manière des métaux, sous la morsure du soleil. Si le soleil doit simuler la lune, la lumière d'une fenêtre devra briller davantage que le soleil. Ce qu'il observe en marchant, ce qu'il veut dire à cette femme qu'il rejoint, ce qu'il a sur le cœur, c'est donc le son qui fait tout. Il avance en se parlant à voix haute. L'expérience de vivre passe par le langage. Saisir et transmettre par l'écriture l'expérience du sensible. Je veux tourner la page. Je m'ouvre comme un fruit pressé entre deux pouces. Quelque chose du sens et du non-sens de la vie. La pulpe vient facile. Une autre voix se fait entendre. Matière même du texte, structure du vertige, le noir n'est pas l'ombre non plus. Il dit « je » et la seconde voix le vouvoie. Une image aperçue fugitivement en chasse une autre. Imposer une forme à nos désirs, le noir qui nous habite. Bloc d'énigmes condensés d'allusions emportées par les aléas de l'émotion, non des paroles, mais un signe. Le sentiment d'être accueilli. Nous nous souvenons d'une chose et pour nous la remémorer, nous empruntons différents chemins. Sans autre certitude que le fil du présent, les rues où nous avançons en équilibre, fixant un point, une image invisible de la ville devant nous. Une voix dans la tête qui nous dit « avance », une autre nous répond. Le soleil est haut dans le ciel, c'est un beau jour d'été. Il fait chaud, l'air est lourd, pas un souffle de vent. L'homme dort à même le sol, sommeil d'ivrogne, lourd et fatigué. Il a échoué là, sur le trottoir, sans savoir où il est, ce qu'il fait. Il a fermé les yeux et tout oublié. Son souffle est épais, aviné, troublé. Je l'entends passant à ses côtés, je l'observe à peine, gêné. Regarder quelqu'un qui dort, c'est troublant, de l'intimité dans le sommeil et nos rêves inavoués. Le rebord du pont lui sert d'inconfortable oreiller. Il ne s'en rend même plus compte. La pierre nue est plus douce que la douleur de son sommeil, ses rêves agités. Il a fermé les yeux, il ne me voit pas. Mais tous les passants alentour m'observent quand je fais mine de m'arrêter à sa hauteur, lui prêter secours. Mon regard devient suspect dans son suspens. Je dois faire quelque chose, mais rester là et l'observer, c'est indécent, obscène. Observer de près rend vulnérable et accessible aux gens, aux lieux. Je dois poursuivre mon chemin, sans lui prêter main forte. Surtout, ne pas le réveiller. Mais qui dort, au juste? Cet homme épuisé, allongé là, à même le sol, ou tous ces passants qui, parce que je m'immobilise un instant à sa hauteur, me condamnent du regard, m'obligeant à m'occuper de lui ou passer mon chemin. Ce ne sont pas vos affaires, circuler, il n'y a rien à voir, surtout ne pas s'apesantir. On le préfère invisible sur votre toit, comme si c'était son lit, chacun chez soi, passons. Dans le silence, les pas qui s'approchent, je mesure mentalement la distance qui me sépare d'elle. Tant de baptiser le voyage qui se surimprime au rythme des pas. Et puis, plus rien que le souffle heurté à soi-même. Ce qui passe n'est plus. L'heure de décocher. Source d'égarement, d'annonce dans la brume. Et ce qui nous apparaît comme trace d'une réalité disparue n'est rien d'autre que la ville telle que nous l'arpentons chaque jour. Nous défendons le vite, le peu est en errance, le rejet de faire suite. Je sors dans la rue et m'y promène comme on ouvre un livre au hasard. Il est parfois difficile de situer un lieu. On se dit qu'on est là et c'est tout. Dans les villes, il est évidemment bien plus délicat de faire passer le jour pour la nuit. Je tire au sort pour savoir où je vais, dans quelle direction. Toujours aucun but précis, à ville ouverte. Oublier de quelle façon on se regarde, solitaire. Dans une sorte de familiarité usée, comme avec une ombre. Cette trace et couche d'écrit dans nos histoires collectives et nos trajectoires individuelles, comme avec ces choses de tous les jours que finalement je ne vois plus et que la vie a passé à la grisaille. Ainsi, la ville devient peu à peu livre entre lignes et les signes, les pages qui se feuillettent elles-mêmes en pages innombrables. Tracées concassées, une seule traite au ralenti. La traînée mécanique s'essouffle, le rythme crisse aux coulisses de la ville. Je lis la page qui me tombe sous les yeux, et c'est là ce qui m'intéresse.